Dans le papier que Rain a fait accepter à Nature Electronics, on montre que si on extrapole, on peut être 10 000 fois plus efficace qu'un GPU. Mais plus fondamentalement, ce que ça implique, c'est que si une puce est 10 000 fois plus efficace et également beaucoup plus petite que les puces existantes, c'est qu'il y a l'idée qu'on peut avoir ce processeur qui tourne localement, par exemple, sur un téléphone. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, en ce qui concerne la confidentialité des données. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on ne peut bénéficier de la qualité de recommandation d'applications comme Google et Facebook parce qu'on envoie toutes nos données à des serveurs à distance auprès desquels on sous-traite le calcul. Mais le calcul n'a pas lieu sur le téléphone. Si on avait ces processeurs-là qui consommeraient très peu d'énergie, on pourrait faire tous les calculs localement sans jamais sortir les données.
Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Maxence Cernoux. Après des études en physique théorique et en maths appliquées, il fait une thèse en calcul neuromorphique avant de rejoindre Rain en tant que chercheur. Rain, c'est une entreprise créée en 2016 pour construire des réseaux de neurones physiques. Rain collabore avec le MILA et en particulier avec Yoshua Bengio. Ils ont fait une levée de fonds de série A de 25 millions de dollars en 2022 auprès de Y Combinator et personnellement soutenu par Sam Altman de OpenAI. Ils publient en 2022 leurs résultats concernant la première implémentation d'apprentissage physique de bout en bout sur un petit réseau de neurones profond. Bonjour Maxence.
Bonjour Marc, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Rain ? Qu'est-ce que vous faites exactement ?
En fait, ce que Rain cherche à faire, c'est à construire des processeurs dédiés au calcul d'intelligence artificielle et plus précisément au calcul impliqué dans l'apprentissage profond, qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Et donc, le type de calcul impliqué dans le cadre de l'apprentissage profond, donc il y en a de deux natures. Il y en a qui ont trait à ce qu'on appelle à l'inférence, c'est-à-dire vraiment la phase de prédiction du réseau de neurones. D'ailleurs, j'expliquerai ce qu'est un réseau de neurones. Et la phase d'apprentissage, c'est-à-dire la phase pendant laquelle le réseau de neurones est entraîné. Maintenant, je peux parler un petit peu plus précisément peut-être ce qu'on entend par un réseau de neurones.
Avec plaisir.
En fait, ce qu'on appelle un réseau de neurones, c'est une architecture de calcul abstraite, mais en fait, qui prend tout simplement en entrée un tableau de chiffres et qui retourne, après une succession de calculs compliqués, une sortie. L'entrée, ça peut être, par exemple, une image qui est encodée par la valeur prise par chacun des pixels, et la sortie, ça peut être le label attribué à cette image, par exemple, un chien, un chat. Voilà. Et donc, le réseau de neurones, c'est une architecture de calcul abstraite, avant tout, qui est déployable sur n'importe quel substrat physique. Mais nous, ce qu'on cherche à faire à Rain, c'est en fait de revisiter ce concept-là d'architecture de calcul abstraite et de l'implémenter physiquement. Et c'est ce qu'on entend par un réseau de neurones physique, au sens où les neurones ne sont plus des entités mathématiques abstraites, de même que les synapses, mais les neurones et les synapses deviennent vraiment des composants électroniques, voilà, et donc qui sont assemblés sur la puce. Voilà, donc c'est ce qu'on entend par réseau de neurones physique.
Donc on arrête de simuler, les neurones et les synapses avec des transistors et on fait ça directement avec du matériel qui reprend le fonctionnement d'une neurone et d'une synapse.
Alors en fait, on utilise toujours des transistors, on ne peut pas s'en débarrasser totalement et on ne peut pas se débarrasser totalement de l'électronique digitale.
Ouais.
Je dirais que la nuance, c'est qu'un substrat de calcul classique va imiter le calcul du réseau de neurones, mais on ne va pas pouvoir isoler sur la puce où se trouve le neurone. On ne va pas pouvoir dire le neurone, c'est ça. Mais c'est juste que le neurone il va être implémenté artificiellement sur la puce sans qu'on puisse précisément le localiser. Alors que l'idée du réseau de neurones physique, c'est que la puce, c'est le réseau de neurones lui-même.
Quel est l'intérêt de faire ça ?
En fait, l'intérêt de faire ça, c'est que les calculs d'intelligence artificielle sont extrêmement coûteux. Il y a deux raisons à ça. Disons que les origines de la consommation énergétique de ces calculs sont doubles. La première raison, c'est que dans les architectures de calcul classiques dites de von Neumann, la mémoire et le calcul sont physiquement séparés. Et en fait, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que ce sont des architectures de calcul qui ont été pensées pour être extrêmement universelles et pas seulement dédiées à un champ d'application comme l'apprentissage profond. Et donc, de cette séparation entre la mémoire et le calcul résulte le transport des données. En fait, ce qui coûte énormément d'énergie sur une puce, et particulièrement dans le contexte de l'apprentissage profond, c'est le transport des données. Je pourrais être un petit peu plus précis là-dessus. Donc ça, c'est la première source de consommation énergétique. Et donc, on va gagner de l'énergie en rapprochant au maximum la mémoire du calcul. Et donc ça, en fait, ça a donné lieu à des développements incrémentaux, par exemple, de la mémoire cache, c'est-à-dire d'avoir une mémoire qui soit la plus proche possible du processeur, et qui fait encore l'objet de progrès aujourd'hui. Et la deuxième source de consommation, c'est le calcul lui-même, qui est extrêmement coûteux. Et en fait, l'unité de base du calcul dans les réseaux de neurones, c'est les additions, les multiplications, et donc plus généralement les multiplications matricielles qui sont extrêmement coûteuses. Donc en fait, si on arrive à réduire ce coût-là, c'est énorme. Donc en résumé, deux ingrédients, rapprocher un maximum le calcul de la mémoire, et le deuxième ingrédient, c'est de faire des multiplications matricielles peu coûteuses.
D'accord. Et alors, donc, ce domaine donc, du calcul neuromorphique que tu viens de nous présenter, il y a plusieurs courants. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu l'état des différentes approches qui sont essayées, des différents courants de pensée ?
Absolument. Donc déjà, le terme de calcul neuromorphique remonte aux années 60 et à Caltech. C'est un concept qui a été proposé par Carver Mead. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer du cerveau pour concevoir des nouveaux paradigmes de calcul, d'où le terme de neuromorphique. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, oui, effectivement, il y a plusieurs courants de pensée différents au sein de cette communauté. Je dirais que, en fait, la communauté dépend un petit peu de l'expertise des équipes impliquées. Disons que c'est un champ qui est tellement multidisciplinaire que c'est difficile de se concentrer sur tout à la fois. Donc, il y a des gens qui seront plutôt orientés, ce que j'appellerais device, donc qui sont vraiment concentrés sur l'ingénierie des matériaux utilisés pour faire des synapses artificielles ou pour faire des neurones artificiels, voire les deux. D'ailleurs, au sein même de ces communautés-là, il y a des gens qui vont plutôt se concentrer sur, quand je dis des gens, c'est-à-dire des chercheurs et des ingénieurs, sur des technologies plutôt digitales, ou c'est-à-dire où l'information est encodée sous forme de bits, c'est-à-dire, en gros, l'information est encodée par des observables physiques binaires qui prennent des valeurs 0 ou 1, et d'autres, au sein de cette même communauté device, qui vont plutôt se concentrer sur des technologies dites analogiques, où, en gros, l'information est encodée par des observables physiques continus. Donc, au sein de cette communauté-là, on va faire des efforts sur la conception de nouveaux types de synapses, nouveaux types de neurones. On va montrer qu'on va réussir à faire des multiplications matricielles ou d'autres opérations très compliquées, ou pas d'ailleurs, avec peu d'énergie. Voilà, donc avec un accent plutôt device. D'autres communautés se concentrent plus sur l'aspect vraiment imitation du cerveau, je dirais approche mécanistique des neurosciences computationnelles, c'est-à-dire qu'on va partir vraiment d'un modèle physiologique d'un neurone qui va coller au plus proche de la physique du neurone biologique tel qu'on le comprend. Et donc on va chercher dans ce cas-là à reproduire vraiment cette physique du neurone, soit simuler ou bien construire un système qui imite des comportements de neurones biologique mis ensemble et observer le comportement émergent. Donc le but, il est, je pense, de voir si les propriétés émergentes de ces systèmes-là qui imitent le cerveau sont les mêmes que celles qui sont observées chez des vrais systèmes vivants. Et enfin, il y a l'approche théorique qui est largement minoritaire, qui consiste à ne pas forcément coller au plus près du cerveau, mais de s'en inspirer seulement et à partir de là, construire des garanties théoriques très solides, soit sur l'inférence, soit sur l'apprentissage.
D'accord. Alors, si j'essaye de résumer ce que j'ai compris, il y a ceux qui se occupent d'essayer de physiquement construire quelque chose qui va avoir les propriétés dont tu nous parlais, de gains de coût énergétique, etc., mais qui se concentre pour le moment au niveau du neurone, de la synapse, donc d'un élément tout petit du réseau de neurones. Il y a ceux qui se disent, pour le moment, on va simuler tout ça avec du software qui sera très inefficace, mais on va implémenter le fonctionnement d'une synapse et d'un neurone de façon inefficace, mais juste pour voir si ça donne les mêmes résultats et si on arrive à reproduire en fait ce qu'on fait aujourd'hui avec le deep learning classique. Et puis la troisième approche, c'est d'essayer de trouver des théorèmes qui garantissent que ça fonctionne.
Exactement, oui, c'est
ça. Comme ce qu'on a aujourd'hui avec le deep learning, on a un théorème qui nous garantit qu'il existe un jeu de poids et un jeu de,
oui,
de réseau de neurones qui fait ce qu'on veut, mais qui ne nous donne pas la voie pour le trouver sur réseau de neurones. Si je prends le parallèle avec le deep learning aujourd'hui...
Oh, si, disons que les prescriptions théoriques viennent avec des prescriptions d'architecture, d'hypothèses sur les modèles entraînés. Une chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que pour autant, dans ce cadre d'études théoriques et mathématiques, on ne s'affranchit pas de devoir simuler des systèmes physiques avec des simulations très très lentes. Et d'ailleurs, c'est l'une des difficultés de ce champ de recherche. Donc je dirais que la troisième direction de recherche se soucie davantage de faire fonctionner l'apprentissage et l'inférence, alors que je dirais que la seconde approche évoquée, plus neurosciences computationnelles, cherche plus à observer les comportements émergents d'un système biologiquement plausible.
Ok, alors vous, chez Rain, vous êtes dans quelle approche ?
Nous, on est très clairement dans la troisième approche. En fait, nous, on ne se soucie pas vraiment de faire un cerveau artificiel, même si c'est effectivement de cette façon-là qu'on vend notre recherche au niveau marketing. Mais on part vraiment des équations de la physique qui régissent le substrat sur lequel on veut faire tourner l'algorithme. Et typiquement, par exemple, les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi de nœuds, la loi d'Émail. Et à partir de là, on veut construire une théorie d'apprentissage qui fonctionne par la physique du circuit et où on a vraiment la garantie que la procédure proposée optimise l'objectif d'apprentissage.
Alors pour rentrer un peu dans le détail, commençons peut-être par les avantages. Concrètement, qu'est-ce qu'on a à gagner si on arrivait à faire ces réseaux de neurones artificiels, ces puces neuromorphiques, qu'est-ce que ça changerait ?
En fait, ça changerait déjà le coût de l'apprentissage. Ce serait infiniment plus rapide et ça coûterait infiniment moins d'énergie. Alors, on peut y trouver des raisons écologiques à pousser ce genre de recherche de façon tout à fait légitime. Mais aussi en termes d'efficacité, c'est juste que ça irait incroyablement plus vite. Donc dans le papier que Rain a fait accepter à Nature Electronics, on montre que si on extrapole, moyennant certaines hypothèses pour extrapoler le petit système qu'on a entraîné, un système plus grand, on montre qu'on peut être 10 000 fois plus efficace qu'un GPU. On reste à réaliser un tel système. Donc ça veut dire que les simulations sont incroyablement plus rapides. Et je dirais, en fait, donc ça, on est plus dans l'ordre de l'enjeu technique, mais plus fondamentalement, ce que ça implique, c'est que si une puce est 10 000 fois plus efficace et également, ce que j'ai oublié de dire, beaucoup plus petite que les puces existantes, c'est qu'il y a l'idée qu'on peut avoir ce processeur qui tourne localement, par exemple, sur un téléphone. Et ça, c'est extrêmement important, par exemple, en ce qui concerne la confidentialité des données. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on ne peut bénéficier de la qualité de recommandation d'applications comme Google et Facebook, Meta, parce qu'on envoie toutes nos données à des serveurs à distance auprès desquels on sous-traite le calcul. Mais le calcul n'a pas lieu sur le téléphone. Ouais. Et donc, tous les outils de recommandation intelligents qui utilisent l'intelligence artificielle nécessitent d'envoyer les données en dehors du téléphone, par exemple, pour les faire tourner sur des serveurs à distance. Si on avait ces processeurs-là qui consommeraient très peu d'énergie, en fait, on serait dans un... Bon, je peux pousser davantage l'idée si ça t'intéresse, c'est que... on peut faire tous les calculs localement, sans jamais sortir les données.
Ouais. Donc Siri, Google Home, Alexa,
Exactement.
Ils arrêtent de tourner sur des serveurs, ils tournent en local, potentiellement, et donc on arrête de partager nos données avec les GAFA. C'est un peu ça, la conséquence.
Alors après, ça vient avec d'autres challenges techniques, parce qu'il faut beaucoup de données, en fait, pour avoir des modèles de recommandation efficaces. Si moi, par exemple, j'entraîne mon téléphone à faire de la recommandation, par exemple, du caractère suivant, quand je tape un message au clavier, et qui s'est basé que sur mes seules données, le modèle ne sera peut-être pas efficace, car il faut beaucoup de données. Donc là, en fait, on tombe dans un champ de recherche qui est, je dirais, connexe à celui du hardware, qui est celui de l'apprentissage fédéré, où on est dans un cadre distribué, où il y a un serveur et il y a des clients. Et donc, le serveur, ça peut être typiquement un très gros serveur basé en Californie, et les clients, c'est des usagers de téléphone. Et donc, dans le contexte fédéré, les clients, ce serait moi, muni d'un téléphone avec une puce où je peux faire de l'apprentissage local. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait, pour que ce paradigme fonctionne, de conserver localement les données dans le téléphone pour faire tourner l'entraînement exclusivement sur le téléphone, il faudrait quand même qu'il y ait un partage avec les autres usagers via un serveur, mais qui ne nécessiterait pas d'échanger les données. Voilà.
Oui, l'apprentissage fédéré, donc c'est ce qui consiste à se partager en fait la modification de l'algorithme, mais pas les données. C'est-à-dire
exactement.
Chacun de son côté, on fait notre calcul pour dire comment on améliore l'algorithme grâce à nos données, et on partage que cette information sur l'amélioration et pas
exactement.
Les données elles-mêmes.
Exactement, c'est ça, absolument. Pour marquer encore le contraste, expliquer plus clairement, l'idée c'est que au lieu d'échanger les données, d'agréger toutes les données sur un serveur, et en fait, en gros, de sortir les données du téléphone, on n'échange que les modifications des modèles localement entraînés sur les téléphones. Voilà. Ça vient avec d'autres challenges techniques, mais voilà, peut-être pas la peine de rentrer dans ces détails.
Oui, c'est un champ de recherche à part entière.
Exactement.
Après, indépendamment de l'apprentissage fédéré, il y a plein de modèles aujourd'hui assez généralistes. Hein, on parle beaucoup de ChatGPT en ce moment. Ces large language models, comme on les appelle, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Le coût, on va dire, de l'énergie des serveurs pour les entraîner avec un facteur 10 000, ça veut dire qu'on compte en dizaines d'euros. On peut imaginer n'importe quelle entreprise entraîner ses propres modèles. Enfin, on est sur un niveau de démocratisation qui n'aurait rien à voir, quoi.
Ah oui, non, c'est clair. Oui, et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Hein. Il y a des entreprises comme Cerebras, qui est une entreprise américaine, qui commercialise ce type de plateforme. C'est-à-dire que Cerebras met à disposition de ses usagers une puce, la plus grosse jamais construite, pour accélérer l'inférence et l'entraînement, mais sur des technologies digitales. Donc on reste sur un gain, je dirais marginal, mais quand même significatif, mais peut-être pas un facteur 10 000. Mais donc on est déjà dans cette mouvance-là, et c'est vrai qu'avec les succès récents d'OpenAI en IA générative ou en traitement de langage naturel, on est vraiment en plein dedans,
oui. Oui, c'est des approches qui ressemblent un peu plus aux TPU, là, les Tensor Processing Units.
Exactement, voilà, exactement. Bah, en fait, typiquement, les TPU, je dirais que c'est un peu dans le même esprit que les puces reconfigurables hardware. On est toujours sur un paradigme de calcul conventionnel où on va vraiment optimiser l'architecture pour accélérer le calcul des réseaux de neurones, mais sans modifier les briques de base du calcul, c'est-à-dire que les multiplications matricielles sont faites de la même façon voilà, sur ce type de substrat. Néanmoins, l'accélération n'est absolument pas négligeable.
Alors, si on regarde de l'autre côté, maintenant, côté deep learning, c'est quoi les gros inconvénients du deep learning ?
Alors, les inconvénients du deep learning, ou de l'apprentissage profond, alors, je dirais que c'est assez orthogonal à ce qu'on fait à RAIN. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas résolu le problème de l'intelligence générale. On n'est jamais parvenu, dans le cas de l'apprentissage profond, à obtenir des êtres réellement artificiellement intelligents. On a plus, je dirais, résolu la partie perceptive de la cognition, c'est-à-dire la faculté à reconnaître des motifs dans les images, dans les sons, dans les vidéos. On a fait des progrès incroyables dans le domaine de traitement de langage naturel, de génération de contenu vidéo, audio, d'images, dans l'entraînement d'agents intelligents qui parviennent à jouer à différents jeux, comme l'a montré l'entreprise DeepMind. Mais en aucun cas, on est parvenu à en fait entraîner des intelligences artificielles qui soient capables d'extrapoler à des contextes qui n'ont pas été vus pendant l'entraînement, et qui généralisent à des situations qui n'ont pas été vues. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une citation qui est faussement attribuée à Stephen Hawking, qui dit qu'en fait, l'intelligence, c'est l'aptitude à s'adapter au changement. Alors bon, il n'y a pas une seule définition de l'intelligence, mais en tout cas, de ce point de vue-là, on n'est jamais parvenu à réaliser des choses réellement intelligentes ou seulement sur des cas extrêmement restreints et simples. Et enfin, je dirais que pour ce qui est des limitations des deep learning sur lesquelles nous, on travaille à RAIN, c'est que je pense qu'en fait, les informaticiens du domaine ne sont pas prêts à renoncer au GPU parce que c'est extrêmement pratique, très facile à utiliser. Et d'ailleurs, le GPU, à la base, n'était pas pensé pour les calculs de réseaux de neurones, mais pour en fait, l'affichage graphique des jeux vidéo. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt à renoncer à l'idée de pouvoir déployer un réseau de neurones aussi facilement sur un GPU. Alors, pardon, un GPU, c'est une carte graphique et c'est le processeur qui est le plus utilisé pour les calculs en deep learning. Et en fait, je dirais que les chercheurs de la communauté deep learning ne sont pas très familiers avec l'idée du réseau de neurones physique. Et disons qu'il faudra, je pense, beaucoup de temps avant de faire définitivement accepter l'idée qu'on peut gagner énormément d'énergie en créant ces réseaux de neurones physiques.
Oui, mais alors ça, il suffit, entre guillemets, d'avoir un breakthrough technologique, d'avoir quelque chose qui est effectivement beaucoup plus puissant et tout le monde l'adoptera.
Oui, bien sûr. Mais je pense que ça va prendre du temps et pour encourager les gens à rentrer dans cette communauté-là, à pousser les efforts de recherche, on est sur quelque chose qui est assez difficile. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on connaît aujourd'hui une histoire assez semblable à celle du deep learning avant 2012, au sens où à l'époque, c'est-à-dire jusque dans les années 2000, on avait deux approches de l'intelligence artificielle. L'approche dite connexionniste, qui a donné lieu à l'apprentissage profond. L'approche dite symbolique, qui est beaucoup moins poursuivie aujourd'hui, mais quand même qui a encore quelques adeptes. Et en fait, pendant longtemps, Yann LeCun, Geoffrey Hinton, Yoshua Benjo étaient moqués par la communauté des informaticiens parce que personne ne croyait à l'apprentissage profond. Et c'est le jour où Alex Krizhevsky a eu l'idée d'utiliser les GPU pour entraîner une architecture convolutionnelle pour le challenge ImageNet, qu'en fait, les gens ont vraiment commencé à s'y pencher.
Donc, en 2012.
Avant ça, les gens ne s'intéressaient pas tant que ça à l'apprentissage profond. Donc oui, pour répondre à la question, oui, je pense qu'il faudra un breakthrough, mais que... Avant ça, et bon, il faudra quand même des efforts de recherche avant d'arriver à un breakthrough réellement impressionnant.
Parce qu'aujourd'hui, là, dans le monde du calcul neuromorphique, dans le monde de ces approches qui offrent ce gain énergétique dont tu nous parles, ce gain de consommation d'énergie, on en est où exactement? C'est quoi les résultats, l'état de l'art de ces approches?
Alors, c'est difficile de parler d'état de l'art parce que c'est, encore une fois, c'est un mouvement intellectuel qui est extrêmement fragmenté. Je dirais que là où on en est, il y a plusieurs échelles de temps. Aujourd'hui, les technologies qui sont commercialisables, c'est plus des technologies dédiées à l'inférence dans les réseaux de neurones, c'est-à-dire que les processeurs développés sont simplement utilisés pour l'inférence au sens où on a un modèle qui a été pré-entraîné, on le déploie sur le processeur et celui-ci peut être exécuté extrêmement efficacement, mais en revanche, il ne peut pas être entraîné une fois qu'il est déployé sur la puce. Et donc là, on est sur des résultats extrêmement matures au sens où on sait énormément accélérer le calcul dans ces architectures-là, c'est déjà commercialisable et on est sur des technologies digitales qui sont mûres avec un vrai gain énergétique et donc on a beaucoup de start-up qui se sont lancées là-dedans. Donc, on est vraiment dans une phase de commercialisation mûre pour ces cas d'usage. Clairement, je dirais que l'acteur qui domine ce paysage-là, c'est Nvidia, évidemment. Enfin, ils sont très, très D'accord. en avance dans ce domaine-là. Et après, il y a tout un écosystème de start-up autour, clairement. Et il y a quelques start-up qui s'attaquent aussi donc, au cas d'usage de l'apprentissage, c'est-à-dire d'avoir une puce qui soit capable à la fois de réaliser l'inférence dans les réseaux de neurones, mais également l'apprentissage. Mais pour l'instant, on est encore sur des gains énergétiques marginaux d'un facteur, bon, je dirais jusqu'à facteur 10, mais guère plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, là, on en est dans la phase, disons, de technologie mature sur le plan commercial. On est surtout au niveau de l'inférence et sur des technologies digitales. Et après, bah voilà, c'est une autre question de côté recherche. Côté recherche, on essaye d'aller vers le calcul analogique parce que c'est extrêmement efficace. C'est un paradigme qui est complètement différent, mais qui a encore beaucoup de limitations technologiques.
Sur les croyances, parce que tu nous as dit un petit peu que le monde était fragmenté dans ce domaine du calcul neuromorphique, quelles sont vos croyances? Quel est votre jeu de croyances ou les tiens, peut-être, si ce n'est pas uni au sein de Rain? Je veux dire, quelle est la croyance poursuivie?
Oui, alors je pense que la croyance poursuivie, déjà, c'est que la clé pour réussir à faire passer à l'échelle nos approches, c'est-à-dire faire fonctionner nos techniques d'inférence et d'apprentissage sur des gros réseaux de neurones, sur des problèmes relativement compliqués, c'est-à-dire avec une dimensionnalité des données assez élevée, c'est d'avoir des garanties théoriques fortes sur les approches utilisées, par opposition, je dirais, à des heuristiques où on ne sait pas trop pourquoi ça marche, comment ça marche, mais ça marchote sur des problèmes simples. Donc ça, c'est la première chose, c'est de construire des théories vraiment solides. Toute l'informatique moderne est basée sur la théorie, en gros, proposée par des informaticiens célèbres comme Turing, von Neumann. Et en fait, il faut un peu repenser l'informatique vraiment de la base et construire quelque chose d'extrêmement rigoureux dès le départ. Ça, c'est la première croyance. La seconde croyance, et qui est aujourd'hui vraiment l'ordre d'une croyance, c'est que les technologies analogiques seront un jour suffisamment matures pour être utilisables. Aujourd'hui, c'est des technologies qui ont beaucoup d'inconvénients, parce qu'il faut imaginer que ces composants, c'est des composants nanométriques, c'est-à-dire les technologies analogiques utilisées pour faire des synapses et des neurones, c'est des composants extrêmement petits, où une infime variation à l'échelle atomique peut provoquer un changement de comportement visible dans le calcul. Et on espère, et notre croyance, c'est qu'on pourra avoir un contrôle très très fin de ces technologies-là d'ici quelques années. Et enfin, je dirais la troisième croyance, ou plutôt non-croyance, c'est que l'inspiration biologique, c'est pas un principe en soi. Et ça, je dirais que j'engage mon opinion ici, mais quel qu'est le cerveau pour quel qu'est le cerveau, je n'y crois pas, et je pense que ça entretient déjà l'illusion qu'on comprend le cerveau, alors qu'on le comprend très mal, et surtout, en fait, on veut faire voler un avion, on veut pas faire un avion qui bat des ailes.
De quoi on a besoin pour avancer dans ce domaine-là ? Est-ce qu'on a besoin de données, de calculs, de matériaux particuliers ?
Alors, c'est une bonne question. Alors, une originalité de notre domaine, c'est qu'on n'a pas besoin de données particulières, alors que c'est un point extrêmement critique dans le monde pro, dans des cas d'usage très concrets, et où vraiment l'ingénierie des données est centrale. En fait, nous, on veut montrer qu'on peut optimiser une fonction de coût avec n'importe quel type de données, y compris des données synthétiques. Donc, je dirais que les données, ce n'est pas le nerf de la guerre.
D'accord.
Mais ce dont on a besoin, c'est avant tout d'interdisciplinarité. C'est vraiment un champ de domaine extrêmement difficile. Et je pense que la raison pour laquelle il avance aussi péniblement, c'est que... Il faut à la fois des compétences purement informatiques, de programmation, algorithmique, compréhension également physique des puces utilisées, à la fois au niveau des matériaux eux-mêmes utilisés pour faire les neurones et les synapses, mais aussi au niveau système, savoir comment les agencer, aussi au niveau compiler, comment est-ce qu'on transmet des instructions à la puce, etc., etc. Donc à tous les niveaux de la conception de la puce. Et je pense qu'il faut aussi beaucoup d'humilité, parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Et il faut prendre son temps pour proposer quelque chose qui fonctionne et qui, en fait, soit utile, qui ait des vrais cas d'usage. Je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, bâtir un business plan en te disant, en fait, la technologie sera tellement révolutionnaire qu'elle sera massivement adoptée, qu'elle remplacera le GPU. Clairement, je ne dis pas ça. C'est possible que ça ne fonctionne pas. Il faut plutôt cibler des cas d'usage très précis. Et donc, je pense qu'on a également besoin de ça, c'est-à-dire d'aller chercher des gens où, en fait, ce type de processeur serait utile.
Quel genre de gens, du coup, à qui ça s'adresse en premier ?
Je dirais que ça s'adresse à des secteurs où on a besoin d'intelligence artificielle embarquée, où, en gros, on veut réaliser le calcul localement. Typiquement dans des contextes où la sécurité est une donnée sensible et qu'on ne souhaite pas sortir les données, on ne souhaite pas envoyer les données sur un serveur pour faire des calculs, mais on veut les garder là où elles sont. Donc voilà, c'est ce genre de secteur-là, des secteurs vraiment des petites niches. Voilà. On a identifié des clients potentiels qui nous ont fait part de leur cas d'usage. Et voilà, donc contexte embarqué plutôt.
Et quelles sont les grandes limites, les grands obstacles pour avancer ?
Je dirais qu'il y a deux types d'obstacles. Le premier, c'est vraiment les principes fondamentaux de l'approche elle-même. C'est ce que je disais au départ, c'est sur quelle base théorique ces puces-là doivent être construites. On observe une espèce de hâte en général de construire des choses, enfin, ou de réaliser des preuves de concept ou des prototypes de puces extrêmement rapidement, qui en fait, in fine, ne servent pas à grand-chose. Je mentionne par exemple la puce True North d'IBM, qui en fait était une sorte de très gros réseau de neurones pseudo-biologiques. Au sens, c'était pas des vrais neurones, mais c'était une matrice de neurones qui imitait les neurones biologiques, qui était une preuve de concept intéressante, mais qui en fait, in fine, n'était pas utile. Donc je pense que la première limitation, elle est vraiment fondamentale et théorique, c'est sur quel principe théorique doit reposer le fonctionnement de la puce. Et la deuxième limitation, comme je disais tout à l'heure, c'est les limitations des technologies analogiques qui sont extrêmement imparfaites, au sens où... Par exemple, les technologies qu'on va utiliser pour faire des synapses, c'est des technologies qui stockent la valeur des encodées sous la forme d'un état de conductance et on va jamais obtenir exactement la même valeur de conductance programmée.
Ouais, c'est pas reproductible. Les expériences sont pas reproductibles.
Les expériences de programmation sur une synapse artificielle sont pas reproductibles. Deux synapses ne sont jamais exactement identiques. Donc en fait, on a énormément de variabilité d'un device à l'autre, de bruit, d'un cycle de programmation à un autre sur un même device. C'est des composants qui sont extrêmement non linéaires, donc très difficiles à programmer finement. Donc clairement,
est-ce que l'idée, c'est pas justement que quand on a un millier, 10 000 synapses, finalement les différences d'une expérience à l'autre s'équilibrent et on obtient à peu près le même résultat. C'est pas ça l'idée théorique derrière les
utilisations. C'est une excellente remarque. Oui, tout à fait. Oui. Alors, effectivement, je peux creuser un petit peu plus ça. Alors, merci pour soulever ce point-là. Il y a une autre chose que j'ai oublié d'évoquer quant à nos croyances à Rain et nos méthodes. c'est qu'on est intimement convaincu qu'il faut co-développer le software, c'est-à-dire les algorithmes, et le hardware, c'est-à-dire la puce. Et typiquement, l'algorithme d'apprentissage le plus utilisé dans les réseaux de neurones, qui s'appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient, ou autrement dit la backpropagation en anglais, en fait, ne s'implémente pas nativement sur des substrats analogiques, parce que le substrat analogique est extrêmement imparfait, comme je viens de le souligner avec l'exemple des synapses artificielles. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là que ce champ de recherche est difficile à faire adopter par les chercheurs dans la communauté d'apprentissage profond. C'est qu'en fait, cet algorithme dont je parle, l'algorithme de backpropagation, il est extrêmement universel et général. Il est utilisé absolument pour toutes les architectures profondes, y compris ChatGPT entraîné par backpropagation. Ouais. Donc, c'est difficile à faire renoncer aux chercheurs assez légitimement. Et en fait, nous, on développe des algorithmes où on utilise directement la physique des composants pour, en fait, entraîner les réseaux de neurones. Et en ce sens-là, on n'est plus dans un cadre où les imperfections vont être gênantes pour implémenter un certain algorithme d'apprentissage, mais au contraire, elles vont être utilisées pour l'algorithme d'apprentissage. Et une façon, en fait, de le dire, c'est qu'on ne cherche pas à gommer les imperfections des composants, mais plutôt, on va construire un algorithme autour de la physique du composant. Donc, on est dans une approche qui est assez radicalement différente des autres entreprises ou des secteurs académiques plus classiques, au sens où vraiment, on ne va pas prendre un algorithme et l'implémenter coûte que coûte sur un substrat physique, mais plutôt, on va partir de la physique du substrat et développer un algorithme qui satisfait les contraintes de la physique du système. Et donc, la conséquence, c'est que bien que les composants utilisés, composants analogiques utilisés soient imparfaits, en réalité, les algorithmes qu'on utilise sont agnostiques à ces imperfections-là. Donc, ce qui est un problème pour les algorithmes d'apprentissage classiques ne l'est plus pour ceux qu'on développe.
Ok. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ?
Oui, je peux parler de ma thèse, qui a été à la fois extrêmement enrichissante et, je dirais, assez conflictuelle sur le plan intellectuel, parce que j'ai travaillé avec des chercheurs qui étaient vraiment à fond dans cette croyance que l'inspiration biologique était un principe en soi et de calquer le cerveau sans trop savoir pourquoi on le fait, ou en tout cas ça ne m'a pas convaincu. Et c'est vrai que ça a été assez difficile jusqu'à ce que je rencontre Joshua Bengio et en particulier son thésard, Benjamin Cellier, qui est devenu un ami, qui est également collègue maintenant chez Rain, où j'ai vraiment redécouvert le domaine sous un angle complètement différent, c'est-à-dire sous l'angle théorique, qui est également l'angle adopté par Rain. Donc je dirais que cette rencontre qui s'est faite de façon complètement hasardeuse en Allemagne dans le cadre d'une conférence orientée hardware a été absolument salvatrice dans le cadre de ma thèse, et je dirais qu'elle a même ouvert une voie que j'aurais jamais soupçonnée auparavant.
Et est-ce que tu as une opinion à nous partager sur ce domaine ?
J'ai plusieurs opinions. Je dirais que premièrement, le terme de neuromorphique est vraiment péjoratif à mes yeux. Comme je disais, je pense que l'inspiration biologique est utile, mais que ce n'est pas un principe ni un dogme en soi. Et je pense que vraiment, à mes yeux, c'est presque une erreur méthodologique. On s'illusionne sur l'efficacité de cette inspiration-là, et en réalité, elle n'a pas suffi à faire fonctionner des systèmes et sur des problèmes d'apprentissage ou d'inférence compliqués. Je n'y crois pas et je le bats en brèche. Aussi, pour parler plus généralement de la recherche dans ce domaine, je pense qu'elle est, à mes yeux, mieux menée dans le cadre industriel où on se soucie vraiment de construire quelque chose qui fonctionne plutôt que d'écrire des papiers scientifiques, bien qu'on cherche également à obtenir un crédit académique, parce qu'on a ce souci de voir quelque chose qui est utile et qui fonctionne.
Alors, qu'est-ce que c'est la suite pour Rain maintenant ?
La suite pour Rain, c'est de construire quelque chose qui fonctionne, précisément. Et donc, on part sur un plan avec plusieurs générations de puces qui diffèrent selon le degré de maturité technologique des composants utilisés et les algorithmes implémentés. Et donc, d'ici la fin de l'année, voilà, on espère envoyer en construction notre premier design de puces. Et on a également des belles collaborations scientifiques pour développer des nouveaux algorithmes d'apprentissage qu'on espère également faire fructifier. Car cette recherche-là nourrit nos idées pour les futures générations de puces. On espère aussi, selon les résultats obtenus, faire une levée de fonds de série B. Voilà, donc on verra ce que l'avenir nous réserve.
D'accord, et ben bon courage pour tout ça alors.
Merci Marc.
Merci Maxence. Vous venez d'entendre Maxence Ernoux, chercheur en calcul neuromorphique chez RAIN. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Vincent Otto, CTO de Sport Dynamics, pour parler de sport et de data. À très vite!